Donc, merci. Je pense que vous connaissez sans doute la phrase attribuée à Alan Kay, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Et je pense dans l'histoire de l'informatique, il y a quelques bons exemples qui ont vérifié cette maxime. Deux qui sont particulièrement importants pour moi sont NLS Augment, le système de Doug Engelbart, qui a inventé un peu tout ce qui est l'interaction collaborative. Et puis l'Alto de Xerox qui a préfiguré toutes les interfaces graphiques qui sont aujourd'hui utilisées par des millions de personnes. Je prends ces deux exemples parce qu'ils me semblent illustrer ce que j'appelle, faute de meilleurs termes, une approche holistique ou globale ou intégrative, dans laquelle le chercheur est animé par une vision de ce que serait l'usage futur des ordinateurs. Et ont tenté de réaliser cette vision par des prototypes très fonctionnels, avancés, complets, intégrant un développement matériel, un développement logiciel, et en se focalisant aussi sur un domaine d'application, comme par exemple la bureautique et l'édition de documents dans le cas de l'Alto. Une vision qui a influencé et continue d'influencer beaucoup de travaux en informatique et en IHM aujourd'hui, c'est la vision du Bicomp de Mark Weiser, qui a 20 ans déjà quand même, 91, et qui avait donc comme vision le fait que les ordinateurs allaient disparaître dans notre environnement en se fondant à cet environnement. Les surfaces deviendraient interactives, tactiles, les dispositifs communiqueraient entre eux de manière fluide et naturelle. Et 20 ans après, il faut quand même constater que cette vision n'a pas vraiment franchi beaucoup le cap des laboratoires. On a beaucoup de périphériques et de dispositifs divers, mais c'est encore pas facile de partager des choses ou de faire communiquer tout ça. Et on en parlait un instant dans la présentation précédente. Alors l'ambition du projet WILD, c'est d'explorer justement cette notion d'interaction dans un environnement Ubicomp, qui, de mon point de vue, préfigure ce que seront demain probablement nos salles de réunion et de travail, et après-demain peut-être nos bureaux, et voir nos salles de séjour et nos espaces d'habitation. Donc un environnement dans lequel de plus en plus de surfaces sont des surfaces d'affichage et des surfaces d'interaction, et dans lequel cette interaction est de plus en plus collaborative. Comme on le fait souvent dans l'équipe in situ, et comme cela avait été aussi illustré par les travaux que j'évoquais plus tôt, pour informer ce processus d'exploration de nouvelles formes d'interaction, une approche, c'est de trouver des utilisateurs qu'on appelle les utilisateurs extrêmes, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont aujourd'hui des besoins qui sont au-delà de la moyenne des ordinateurs, mais dont on considère qu'ils sont représentatifs de ce que sera l'évolution de ces usages. Alors, dans notre cas, on est allé chercher des scientifiques, on cherchait des utilisateurs qui avaient des besoins de visualisation, d'analyse, partage, de masse de données complexes. Alors, sur le plateau de Saclay, on ne manque pas de laboratoire, et 8 d'entre eux nous ont expliqué leurs besoins et leur intérêt pour expérimenter donc l'interaction dans des environnements interactifs. Par exemple, Valère Védol, un astrophysicien de l'IAS, qui voit pour la première fois cette image pleine résolution de l'un de ses télescopes favoris. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les astrophysiciens ils manipulent des images qui font littéralement des centaines de milliers de pixels de large. On a une image de 400 000 pixels, par exemple, de la Voie lactée. C'est aussi les chimistes, les biologistes moléculaires qui doivent essayer de comprendre le fonctionnement de molécules de plus en plus complexes, des dizaines, voire des centaines de milliers d'atomes. À gauche, on voit notre mise en œuvre de l'application PyMOL, très utilisée dans le domaine, qui permet de faire tourner et de manipuler des molécules en 3D sur le mur d'écran de WILD. Ce sont aussi les neuroanatomistes de Neurospin qui étudient la variabilité du cerveau, et qui ont envie de comparer des dizaines, des centaines de scans de cerveau visuellement, et aussi de voir ce que leur programme d'analyse donne dessus. En travaillant avec ces scientifiques, ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre idée originale qui était « il faut pouvoir afficher des grandes images », c'était l'un des usages, effectivement, mais ce n'était pas l'usage principal, et ce n'était certainement pas le seul usage. Notre usage, on l'a vu avec les cerveaux, mais c'est vrai aussi des astrophysiciens qui doivent comparer des images dans plusieurs bandes de fréquences, par exemple, c'est comparer des données de nature homogène. Mais ils en veulent toujours plus. Ici, littéralement, ils voulaient pouvoir afficher 500 cerveaux, par exemple. La demande la plus fréquente, c'est sans doute la capacité d'agréger des données hétérogènes sur un même phénomène. J'étudie un phénomène, je veux voir la molécule, je veux voir les articles qui ont été publiés, je veux voir les résultats des programmes de séquençage, de tels logiciels d'analyse. Et donc cette agrégation doit se faire à nouveau sur des grandes surfaces d'affichage pour confronter les données. Et le dernier besoin qui s'est exprimé de manière unanime, c'est que la recherche, c'est collaboratif, et souvent c'est avec des collègues qui sont distants, et il faut donc pouvoir communiquer à distance entre de tels environnements ou entre un environnement tel que celui-ci et des gens dans leur bureau. Donc sur la base de cette analyse, je dirais un peu des besoins des scientifiques, on a conçu et mis en œuvre une plateforme qui, à ma connaissance, est assez unique. Donc je vais décrire rapidement les composants matériels, il y a plus de détails dans l'article. Le premier composant, vous l'avez déjà vu, c'est ce mur d'écran. Nous avons fait un choix d'avoir la plus grande résolution possible en termes de pixels par pouce, ou même par centimètre, en prenant des écrans ici 30 pouces de commerce, et donc d'avoir sur une surface à peu près telle que celle-ci, la même capacité d'affichage en nombre de pixels que l'écran que vous avez tous plus ou moins en face de vous. Donc pour donner une idée, si on projetait une image de la Terre ici sur le mur Wild, avec un projecteur tel que celui qui est de la salle, voilà ce que donnerait un agrandissement d'une partie de la France, et voilà ce que donne l'affichage disponible sur Wild. C'est plus flagrant sur des images non photographiques qui contiennent notamment du texte. Ici, on a l'image du web où on peut lire, en fait, et c'est même plus précis que ce que vous pouvez voir ici, vu la limitation de la résolution, lire le nom de tous ces nœuds de l'Internet, où on peut afficher une soixantaine de pages de texte et lire parfaitement le texte à sa taille naturelle, la taille qu'il aurait sur une feuille de papier. Et le fait d'avoir cette très haute résolution, elle implique des compromis. Bon, on a les bords des écrans, ok. On espère que les constructeurs vont les faire disparaître petit à petit. On n'a pas d'écran tactile, parce que les écrans tactiles n'existent pas à cette taille et à cette résolution. Mais de toute façon, pour interagir avec le mur, il faut aussi pouvoir le faire à distance. Mais en même temps, ce que l'on a observé, c'est que cette très grande résolution, elle encourage des usages nouveaux de ces grandes surfaces. Au lieu d'être assis loin pour regarder, on s'approche, on s'éloigne, on circule, et donc on veut permettre des interactions qui sont beaucoup plus spatiales, dans la capacité à déplacer des contenus ou à se déplacer physiquement pour voir les détails. Alors, 32 écrans, bah, il faut derrière une puissance de calcul, donc on a un cluster de visualisation, et on a essayé de mettre le plus de puissance de calcul et de puissance graphique possible pour après être le plus feignant possible sur les développements logiciels, et ça, je dirais, assez bien réussi, en ce sens qu'on n'est pas limité par la puissance de calcul. Et comme on est intéressé par l'interaction multisurface, on a aussi une table interactive. Mais en fait, cette table interactive, comme elle a une résolution significativement moins bonne que celle du mur, les utilisateurs ont tendance à la délaisser, parce que dès qu'ils veulent voir du détail, ils s'approchent de la table, qu'il faut toucher, donc il faut être prêt, et puis ils voient qu'il n'y a pas de détail, donc ils vont sur le mur. Et donc on est en train de compléter cette table par une table avec un écran plat, qui permettra aussi de s'asseoir autour, parce que rester debout tout le temps dans une session, c'est fatigant, et qui aura une meilleure résolution. Comme je l'ai dit, on veut de l'interaction qui soit dans l'espace de la pièce. Donc on a un système de suivi de mouvement qui est un système Vicon à base de caméras et de capteurs passifs, qui sont ces petites billes là, que vous voyez. C'est un système qui marche très bien quand il marche. Donc c'est un peu contraignant, il faut calibrer, il ne faut pas qu'il y ait de lumière parasite. Et c'est un des points, à mon avis, qui est un obstacle à la généralisation de ce genre de technologie. Il faudra trouver des technologies de suivi 3D qui soient plus faciles d'emploi et moins contraignantes. Et puis enfin, on utilise beaucoup de dispositifs mobiles. On a commencé avec des iPod Touch, des iPhones, des iPads, je pense qu'il y a des Android maintenant, des souris gyroscopiques, des périphériques faits sur mesure. Et ce que l'on a constaté, c'est que les utilisateurs étaient demandeurs de dispositifs personnels d'interaction. C'est-à-dire que même dans les tâches collaboratives, même si on partage des documents, on n'a pas envie d'afficher les menus ou de projeter l'interface partagée par tout le monde. Avoir une interaction personnelle avec des données partagées, c'est quelque chose qui semble être souhaité par les utilisateurs. Donc pour résumer les points clés de cette plateforme, on s'est concentré sur la facilité, sur les facilités d'interaction et de collaboration, alors que beaucoup d'autres projets qui ont déployé des écrans, des murs d'écran, certains beaucoup plus grands que celui-là, le plus grand fait 75 écrans de 30 pouces, se sont plutôt concentrés sur la performance et le rendu graphique et ont délaissé l'interaction. Et la combinaison de la grande taille, de la très haute résolution et des multiples surfaces, partagées comme personnelles, donnent des capacités uniques d'interaction qui nous ont permis d'explorer un certain nombre de formes d'interaction et ensuite de les prototyper et de les expérimenter de manière réelle. Enfin, c'est quelque chose qui finalement ne coûte pas si cher que ça. Il y a les détails dans le papier, mais si vous comparez le prix par rapport au moindre microscope acheté par un biologiste, c'est presque de l'argent de poche. Donc une fois la plateforme mise en place, on a continué le processus de conception participative afin d'explorer les méthodes et les modalités et les formes d'interaction qui seraient adaptées à ce type d'environnement. Donc j'ai ici une petite vidéo qui illustre les premières séances où on essaie de voir comment à distance faire de la navigation ici dans Google Earth. Alors c'est du magicien d'Oz, donc notre ingénieur Clément est derrière l'écran et pilote à distance ce qui se passe sur le grand écran. Ici on voit un exemple où après avoir essayé la technique classique de l'iPhone, le pinch, on se dit que si on peut capter la position dans l'espace du dispositif, on peut avoir peut-être une forme d'interaction plus naturelle dans ce genre d'environnement. On peut imaginer de faire du pan et du zoom de cette façon-là. On a aussi revisité des techniques d'interaction classiques du monde Ubicomp, qu'on va voir dans un instant, quand je serai revenu un petit peu en arrière. Voilà, donc c'est l'appel à donner. Donc l'idée, c'est que vous prenez votre iPhone, vous récupérez des choses de la table, vous allez vers le mur, et il suffit ensuite de jeter le contenu de l'iPhone sur le mur. Là aussi, c'est fait avec un petit peu de magicien d'Oz. Et le fait d'avoir cette plateforme nous a permis de vraiment jouer ces scénarios d'interaction, d'abord nous-mêmes et ensuite également avec des scientifiques comme ceux de Neurospin à gauche ou ceux de l'IAS à droite. Et ce qui est assez instructif, je trouve, c'est que spontanément dans ces séances de conception participative, ils ont imaginé des méthodes d'interaction qui existaient dans la littérature, comme à gauche l'utilisation d'un cerveau en plastique physique comme moyen d'interagir en 3D pour orienter les scans des cerveaux, ou à droite l'usage d'une lentille magique pour explorer les différentes bandes de fréquences d'une image spatiale. Et donc je pense que ça c'est une preuve de plus, si on était besoin, de la capacité de l'approche participative à générer de l'innovation par les utilisateurs et de faire le tri parmi les dizaines et dizaines de méthodes d'interaction qui existent, celles qui sont vraiment appropriées et qui répondent à leurs besoins. Et ce que l'on a vu dans les différents cas, c'est le besoin d'avoir des méthodes un petit peu génériques, générales, pour déplacer des contenus, pour annoter des contenus, pour manipuler des contenus. Donc on le voit à droite ici avec l'utilisation du papier annoto, donc stylo interactif qui permet d'annoter des données sur le mur. Encore une fois, le mur n'est pas tactile, donc il faut faire ça à distance. Ou en haut à gauche, où on voit Olivier Chapuis qui, grâce à Métis, peut prendre une fenêtre de son laptop et l'envoyer sur le mur sur lequel elle peut être agrandie et interagir directement avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est que les utilisateurs veulent venir avec leurs données, les chercher en cours de route, et donc qu'il y ait vraiment une fluidité entre le travail en dehors de la salle et le travail dans la salle. Alors, on a réalisé, à la suite de ces séances, un petit prototype qu'ensuite on a mis en scène dans cette vidéo. Donc ici, on voit Pimax qui utilise la table comme une image miroir de l'écran pour organiser un ensemble de contenus, ici des images donc, issues de nos amis astrophysiciens. Et James, ici, qui peut reprendre ces images avec un iPod qu'il utilise un peu comme un pointeur laser pour les déplacer à l'écran. Envoyer du contenu au mur, une des façons les plus simples qu'on ait trouvées, c'est de lui envoyer du mail. Donc le mur a une adresse Gmail, vous lui envoyez un mail, les attachements apparaissent sur le mur. Et on voit ici, d'un petit peu plus près, l'interaction avec cet iPod dans la position 6 degrés de liberté est traquée dans l'espace. On peut aussi afficher des fenêtres actives. Donc ici, James envoie une image d'une page web. Ici, on voit, il passe une image sur l'écran, une fenêtre sur l'écran de la table. La table est cette fois-ci adjacente au mur, donc il la glisse vers le mur. Clemens la reprend, peut la redimensionner. On a un système qui permet, si l'application le fournit, d'avoir un agrandissement vectoriel et pas pixellaire. Et on a vu que lorsqu'il interagit avec l'écran, avec son portable, c'est reporté sur le mur. Et puis ici, on a notre physicien de service, Fanis, qui utilise à nouveau un stylo Anoto pour écrire quelques équations et ensuite les envoyer sur le mur. Donc, dans ce processus, ce que l'on a découvert, c'est que les techniques d'interaction classiques étaient à réinventer, ou en tout cas à adapter. Le pointage, qui doit se faire souvent à distance, la navigation dans les grandes données, des choses comme la gestion de fenêtres, de documents. Et donc, on a travaillé, par exemple, sur le pointage haute précision à distance, où on voit ici, avec un pointage de type laser, que les tremblements de la main font qu'on ne peut pas profiter de la haute résolution du mur pour aller désigner précisément des cibles. Donc on a expérimenté les techniques à deux modes, où j'ai un mode où je pointe grossièrement, je m'approche de la cible, et ensuite j'active un mode pour un pointage précis. Là avant c'était une souris gyroscopique, ici c'est un laser plus une surface tactile. Mais je dois dire que ça marche, on a des résultats qui sont convaincants, mais c'est pas encore, à mon avis, la meilleure technique pour faire du pointage de haute précision. Le changement de mode est toujours quelque chose qui complique l'interaction. Et peut-être qu'au lieu d'imaginer les meilleures techniques pour faire ceci ou cela, il est préférable d'explorer un petit peu le design space, les espaces de conception de ces techniques, pour qu'en fonction des contraintes applicatives, on puisse choisir la méthode la plus adaptée. Donc ici, dans un travail de notamment Mathieu Nancel et Julie Wagner, qui a été publié à CAI cette année, et qui a même été récompensé d'un prix, ils ont exploré 12 techniques de navigation pan and zoom, en combinant des trois facteurs. Est-ce que c'est une technique unimanuelle ou bimanuelle? Est-ce que l'on fait des gestes qui sont plutôt des gestes linéaires, comme on l'avait vu dans la petite vidéo, ou des gestes au contraire circulaires, qui ont l'avantage de pouvoir être continus? Et est-ce qu'on contrôle avec la main libre, ou est-ce qu'on contrôle avec avec un dispositif comme une surface tactile? Et donc voilà le genre d'interactions qui sont testées dans une tâche de pan and zoom. Ça c'est une des meilleures méthodes qui combine deux mains avec des gestes linéaires. Si on dégrade cette méthode en mettant les deux interactions sur la même main, on a encore des performances acceptables. Donc ici on a une surface tactile avec deux zones, une pour le pan, une pour le zoom. Mais il y a aussi des techniques qui marchent moins bien, et en particulier les techniques main libre, en tout cas dans notre expérience, ont tendance à créer plus d'erreurs, plus de fatigue, et moins de bonnes performances. On voit ici une technique 3D circulaire unimanuelle. Ce que nous vend régulièrement Hollywood dans les films n'est peut-être pas un mode d'interaction le plus efficace. Ou alors il faut s'appeler Tom Cruise, je ne sais pas. Donc, dernier point que je vais développer, c'est les développements logiciels. Pour ce genre de plateforme, on a été amené à développer nos propres logiciels. Les outils existants étaient peu adaptés, ils étaient surtout orientés vers le rendu graphique et peu vers l'interaction. Et il faut voir qu'on est ici dans un environnement où on a au minimum une vingtaine de machines qui sont impliquées. Donc ce sont forcément des architectures répliquées, enfin des architectures distribuées, pardon. Et ce que l'on veut, c'est aussi pouvoir réutiliser des applications existantes. Il est hors de question qu'on aille recréer les nombreuses applications qu'utilisent les scientifiques. Donc on a adopté une approche modulaire. Donc par exemple, Stéphane Huot a développé le Wild Input Server à partir de Icon, qui nous permet facilement, et y compris pendant les séances de prototypage, de changer les affectations des dispositifs, de créer des nouveaux dispositifs à partir de différentes sources, et également de pouvoir développer et tester dans son bureau ou chez soi, où on n'a pas forcément un Vicon et un mur de 30 écrans, simplement avec une Wiimote, et ensuite de changer la configuration. L'aspect de l'affichage, on a plutôt développé deux approches qui ont quand même en commun le fait d'avoir une architecture répliquée. Ce que l'on a découvert qui marchait bien, mieux que l'on l'imaginait, c'est que vous prenez une application, vous la faites tourner 16 fois, 32 fois, ou le nombre de fois qu'il faut pour meubler vos écrans, et vous avez un contrôleur qui envoie des commandes à ces répliques en leur donnant la partie de la scène qu'ils doivent afficher. Et sans synchronisation plus sophistiquée que cela, on a d'excellents résultats. Je l'ai mentionné tout à l'heure pour la molécule qui tourne en temps réel. C'était le cas ici aussi avec Gbrix, qui est parti de la boîte à outils ZVTM d'Emmanuel Pietriga, et qui a été porté notamment par Romain Primé sur le mur, et qui permet de naviguer de manière fluide dans ces images qui font, comme je l'ai dit, plusieurs gigapixels. On a une photo de Paris de 27 gigapixels, par exemple, et on peut, de manière continue, naviguer dans cette image grâce à ce logiciel. Alors, dans Gbrix, on a voulu garder le modèle de programmation habituel. Le programmeur, pour lui, tout se passe comme s'il y avait un écran très grand. Le fait qu'il y ait un cluster, tout ça, est transparent. Par contre, dans l'autre logiciel qui s'appelle Substance, développé par... là, c'est plus compliqué, c'est des Danois. Tony Gjermundsen et Clemens Klokmoos, ainsi que James Egan. On a voulu, au contraire, rendre explicite la répartition et programmer une application comme un ensemble de composants, on les appelle des environnements qui sont répartis. Ici, on en a certains qui sont spécialisés pour le rendu, d'autres qui sont spécialisés pour produire le contenu du nœud, du graphe de scène qui sont affichés dans les documents qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo. Ces substances qui étaient utilisées dans la vidéo tout à l'heure. Et puis, encore d'autres composants qui sont spécialisés dans l'interaction et qui sont indépendants du reste, donc ce qui donne une approche relativement flexible et dans laquelle on peut ajouter, enlever des composants dynamiquement. Substance permet aussi d'encapsuler des applications existantes. Donc c'est ce qu'on a utilisé dans le deuxième prototype sur l'affichage des cerveaux. Nos chercheurs voulaient voir leur cerveau en 3D et tourner autour. On a réalisé cette application en encapsulant leur outil qui s'appelle BrainVisa. On en exécute 60 copies ici qui sont donc synchronisées. Et l'interaction se fait en manipulant, comme vous l'avez vu, c'était rapide, en manipulant, comme vous voyez, ce cerveau en plastique, dont la position est traquée dans l'espace, la baguette représentant la direction de la caméra. Donc on voit ici le genre de performance que l'on a. Donc je termine rapidement. Ce que je voulais montrer dans cet article, c'était l'intérêt de cette approche globale ou holistique. On a développé donc une plateforme matérielle flexible à partir de composants sur étagère, en se focalisant plus sur l'interaction que le rendu graphique. Et ça nous a permis de découvrir et d'exploiter les affordances, au sens de Gibson, de cette plateforme pour des interactions diverses, et notamment dans tout l'espace de la pièce. Et on a découvert aussi que l'utilisateur était intéressé par l'usage de dispositifs personnels pour des interactions de nature collaborative. Le travail avec les utilisateurs a été important pour bien comprendre leurs besoins, et ils se sont vraiment impliqués dans ces séances de travail collaboratif et participatif. Enfin, avec le logiciel, on a montré que si on met suffisamment de puissance de calcul, finalement, on peut réaliser des prototypes avec des coûts de développement qui ne sont pas gigantesques et de très bonnes performances. On a aussi découvert quelques astuces. L'utilisation de protocoles légers, par exemple, OSC, nous permet facilement d'intégrer de nouveaux périphériques. Mais parmi les besoins que j'avais identifiés tout à l'heure, il y en a un que vous avez peut-être noté qui n'était pas couvert, c'était celui de la communication à distance. Et donc le projet WILD se poursuit dans un cadre plus vaste, qui est le projet d'équipement d'excellence Digiscope, dans lequel on va déployer pas moins de 9 plateformes du type de WILD, sauf qu'elles seront toutes différentes. Il y aura des salles immersives, des murs tactiles, des murs 3D. Elles seront localisées dans le sud de la région parisienne. Et l'objectif du projet, c'est vraiment d'explorer, selon une approche comparable à celle de WILD, cette fois-ci la collaboration à distance entre des salles de ce type. Ce réseau a vocation évidemment à s'étendre au-delà de l'Île-de-France, et donc si vous êtes intéressé à participer, on peut en discuter. Voilà, pour finir, je voudrais dire qu'évidemment WILD, c'est un projet collectif, que beaucoup de gens ont participé à la réalisation des travaux que j'ai à peine évoqués. Ce sont ici des membres de l'équipe in situ. Que la plateforme WILD, elle est utilisée pratiquement 24 heures par jour. C'est un grand succès et par des équipes au-delà de celles que j'ai mentionnées ici. Olivier, tout à l'heure, me rappelait qu'on a des places pour des post-docs, si vous voulez venir jouer dans cet environnement. Mais le message que je voudrais faire passer surtout, c'est que déployer de tels environnements, explorer à la fois les usages, les aspects matériels, logiciels et les aspects fondamentaux de l'interaction, tout ça crée une synergie qui permet, je pense, vraiment de faire avancer l'état des connaissances et de mieux anticiper ce que pourrait être le futur de nos interactions dans ce genre d'environnement ubiquon. Merci.